voulais d'abord vous dire que la dernière fois que j'ai eu l'honneur de partager avec vous sa parole, j'ai dit des bêtises. J'ai employé des versets mal à propos. Enfin, ils n'étaient pas faux, mais ce n'était pas bien ciblé. J'ai déjà demandé pardon au Seigneur et ça me dérangeait vraiment. Je l'ai dit au pasteur et il m'a dit, mais Or, ça va, je suis en paix maintenant. Et si vous voulez savoir lesquels, ben vous irez sur le site, peut-être que le message y est. Vous saurez. Ah ouais! Ah oui, c'est le privilège du... Je débranche le micro. Et c'est pour moi le privilège de vous dire Alléluia. Vous êtes beaux. On est nombreux ce matin. Parce que vous voyez peut-être vous-même, c'est déjà bien. Mais vous savez qu'il y a le bonheur et la grâce qui vous accompagnent. C'est serré, hein. Aujourd'hui, on est très serré, hein. Il y a le bonheur et la grâce avec nous, hein. Et ils nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alléluia. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle. Vous cherchez des prénoms, je vous en donne un. Tselovchkad. Ça veut dire premier-né. Cet homme, il a connu beaucoup de choses. Il était esclave en Égypte, il a fait des briques. Il est sorti du pays d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il a vécu, oui, bah, il a mangé des cailles, mais il a surtout mangé de la manne. Il a bu à l'eau du rocher. Il a vu la révolte de certains, il a vu la terre s'ouvrir et être absorbée, avalée. Il a vu beaucoup d'événements. Oh, ils sont arrivés même au bord de la terre promise. Et puis, quand 12 sont allés explorer, 10 sont venus. Ils sont grands, ils sont forts, ils vont nous on est des sauterelles. Puis il y en avait deux qui étaient pleins de punch, mais cela, on ne les a pas écoutés. Eh bien, notre Tselovchkad, suivant les traductions, est mort. Son dernier repas était de la manne. Il est mort. Juste de l'autre côté du Jourdain, à la fin du ministère de Moïse, juste avant la prise de Josué comme général en chef pour faire la conquête du pays. Et cette Tselovchkad a eu 5 filles. Oh. J'avais un mari qui disait, moi je veux bien des filles, mais à partir de 18 ans. Oh là 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 là, 5 filles. 5 filles, 5 filles qui ont osé. 5 filles qui sont allées voir Moïse et devant la tente de la rencontre. Elles ont osé se présenter en tant que filles. Il est vrai qu'on ne savait plus trop combien il y avait d'hommes et de femmes dans le camp d'Israël, parce que les 40 ans passés, tous ceux qui étaient sous la malédiction étaient morts. Combien il y avait eu d'enfants, combien il y avait de garçons, combien il y avait de filles, combien il y avait d'hommes pouvant porter les armes, combien il y avait de bébés, tout ça n'avait pas été dénombré. Et face au pays qui allait être conquis, eh bien, ce peuple qui était un peuple grégaire, un peuple qui élevait des animaux, un peuple de nomades, allait devenir un peuple sédentaire avec des terres. Et le partage allait se faire. Et selon la coutume, eh bien, ce sont les gars qui ont été dénombrés, les hommes. Et les filles, là, et, oh, et nous, et notre père, là, on est quand même 5. On est une tribu, on a un nom, on dépend d'une famille. Et on va regarder dans le livre des Nombres, au chapitre 27. On va regarder juste de 1 à 7 pour commencer. Je vous laisse chercher. C'est le quatrième, je crois. Ouais, c'est le quatrième livre depuis le début. Le livre des Nombres, chapitre 27. J'y vais. Les filles de Tselophshad, ou Tselophkad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka, Tirza. Ah, Noah, Tirza, ça, c'est utilisé chez encore. Les autres, je ne connais pas. Eh bien, ces cinq filles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, de la rencontre, et elles dirent « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselophkad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Dieu qui est si précis dans ses plans, comment ça se fait là? Il aurait oublié de cette famille et il s'attendait sans doute à ce que les filles réclament. Quelque part, elles ont osé, hein, ces femmes. Je les trouve extraordinaires. Pour moi, ça m'encourage. Oh, elles n'étaient pas des gosses, elles avaient bien compris. Elles étaient cinq. Bon, à cinq, on est peut-être plus courageux qu'à un, c'est vrai aussi. En même temps, elles ont des prénoms qui sont très disparates. Il y a celle qui est sensible, il y a celle qui est forte, il y a celle qui est joyeuse, il y a tous les caractères hollywoodiens. Vous savez, dans les films, quand ils font les films de guerre et qu'on nous présente un petit peu l'OTAN, il y a le rigolo, il y a le triste, il y a l'anxieux, il y a le courageux, il y a toutes sortes de caractères. Elles y sont là, chez les filles de Tselophkad. Et Moïse a porté la requête devant l'Éternel. Il n'a pas été présomptueux. Parce qu'on était face à ce nouveau cas de figure. Des filles qui réclament la justice, un héritage terrien, certes, mais aussi spirituel. Merci pour le message spirituel concernant la Sainte Cène. Un message spirituel. Dieu n'est jamais surpris. Il sait tout. Mais il s'attend à ton audace. Il s'attend à que tu le surprennes, bien qu'il ne soit pas surpris, mais que tu te surprennes toi-même par la façon dont tu vas réagir. Il s'attend aussi à répondre dans la mesure où nos requêtes sont en accord avec son esprit. Il n'y a pas de problème, il répond. Les filles ont eu du courage, mais aussi elles ont eu confiance. Elles n'ont pas attendu d'être de l'autre côté du Jourdain. Elles n'ont pas attendu que la terre soit gagnée. Elles s'y sont prises à temps. N'attendons pas que les événements arrivent. Allons voir notre Dieu chaque matin. Comme nous le dit David dans le psaume 5, les versets 3 et 6, chaque matin il cherche sa face, chaque matin il avait besoin de cette rencontre, chaque matin. N'attendons pas d'avoir des soucis, des problèmes, allons-y tout de suite, chaque matin, chaque matin. Elles n'ont pas eu d'hésitation parce qu'elles avaient confiance. Et moi je n'ai pas d'hésitation. Je suis consciente que je peux dire des bêtises, mais je sais que mon Dieu m'aime. Et qu'il me répond toujours. Et quand il ne me répond pas, c'est que soit je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Soit que, attends, Non, ça attend, ça va pas avec mon caractère. Soit simplement, ça ne me, je l'ai mal formulé. Parce que oui, peut-être que j'ai un besoin réel, mais je ne l'ai pas bien formulé. Donc, je reprends ma formule et il me console, il me fortifie, il me délivre, parce que je m'y suis mal prise, parce que je n'ai pas bien analysé la situation. Alléluia! Dieu sait ce dont tu as besoin, n'hésite pas. Oh, tu peux lui dire des bêtises. Tu pourras toujours lui demander pardon si tu réalises que tu as dit une bêtise. De toute façon, il ne t'aura pas répondu. Alors. Donc, tu auras compris que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ces filles s'appuient sur une bénédiction qu'elles connaissent, la bénédiction de leur ancêtre. Leur ancêtre Jacob, grand-père Jacob, Israël, eh bien, a béni les fils de Joseph. L'aîné de Joseph s'appelait Manassé. Elles sont de cette lignée-là. Et si vous allez lire la bénédiction qui est dans Genèse 49, les versets 22 à 26, il s'agit d'une bénédiction éternelle, une bénédiction dans la longévité, une bénédiction dans la durée. Genèse 49, non, oui, 49, versets 22 à 26. À nous de puiser aussi dans les bénédictions. Encore faudra-t-il les connaître. Où sont mes bénédictions? Cherchons-la. Justement, c'est celui qui s'ouvre mal. Celui qu'on connaît pas bien. Voilà. Cherchons dans les bénédictions. Ces bénédictions sont dans la parole de Dieu. Et alors même que les femmes n'étaient pas comptées dans les recensements, elles osèrent s'approcher avec audace de la tente de la rencontre, le lieu où Dieu transmettait ses instructions à Moïse. Et au-delà du nom de leur père qu'elles voulaient honorer, c'était leur identité qu'elles voulaient défendre. Mon identité, elle est quoi? Ton identité, elle est en quoi? En Christ. Notre identité est en Christ. C'est cette identité que nous devons honorer. C'est cette identité que nous devons défendre. Mais c'est quoi au fait cette identité-là? Ouh là là, il y en a beaucoup là des éléments. Par exemple, vous avez une idée de votre identité là? Il y en a plein hein, de possibilités. Allez, je vous donne une référence, vous la connaissez par cœur. Galette de vin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous en donne une autre. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je puis tout par celui qui me forme. La référence. 2 Corinthiens 5, 17. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est etc., etc. Et où est-ce que je puise cette identité? Hé, hey, dans la parole, hein? C'est dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, on est pas... Il y a les chrétiens de 40 ans, les chrétiens de 5 jours, les chrétiens d'hier ou de tout de suite. Bah, petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu puises dans sa parole en venant à l'église, parce que je peux vous dire par expérience, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je ne faisais pas partie d'une église, je faisais partie d'un club de dames, d'un groupe de dames que je fréquentais, qui venait à la maison tous les mardis. Mes voisines venaient et on partageait la parole. Une dame nous partageait la parole de Dieu et ainsi, bien, petit à petit, j'ai développé la connaissance de mon Seigneur. Mais c'est quand je suis venue à l'église que j'ai vraiment grandi. C'est à l'église que nous grandissons, c'est dans la communion fraternelle. Avec laquelle nous nous frottons, sur nos frères, que nous apprenons à vivre la parole de Dieu. Mais connaître les promesses, c'est bien. Parce que ces promesses sont pleines de droits. Je puis tout. Et de devoirs. Connaître les promesses ne suffit pas. Il faut déjà connaître aussi celles qui nous concernent. Parce qu'il y a des promesses qui ne sont pas pour moi. Hein. Nous avons chacun un talent, chacun des dons, chacun des promesses qui sont pour notre propre personne. Mais il y a aussi des promesses universelles. Ésaïe 51, le verset 20 et 21. Nous devons prier et enseigner. Qui ? Les enfants. Nos prières intergénérationnelles sont essentielles. Nouveau tiroir, nouveau volet. Nos prières sont essentielles. Nous ne sommes pas l'objet du hasard. Quand j'étais dans la bijouterie, des gens venaient acheter des cadeaux pour un baptême, une naissance, en me disant « Oh, ben, une croix, on ne sait pas, on ne sait pas s'il va croire ou pas. »
Oh, ça, tu ne sais pas.
Croire à Non, non, ce n'est pas un hasard de croire ou de ne pas croire. Notre responsabilité, c'est de transmettre. Et peut-être que tu te crois le premier maillon d'une longue chaîne. Moi, je l'ai pensé un temps, parce que autour de ma famille, on était croyants superstitieux, croyants générationnels de mon grand-père était comme ça, ma grand-mère arrière, ils étaient comme ça, puis l'arrière-grand-père et puis l'arrière-grand-mère. Mais j'étais enseignée quelque part avec des mots, mais je ne l'ai pas vue. Pourtant, le Seigneur est venu nous visiter. Il est venu visiter mon mari et on a découvert, par exemple, qu'il avait un tonton qui était pasteur sur l'île de Jersey. On ne l'a jamais connu, on ne sait même pas comment il s'appelle. Il a prié pour sa descendance. Était-il anglais, était-il normand, était-il breton, je ne sais pas. Mais on fait partie d'une chaîne. Et moi, j'ai eu un grand-père, alors là, ça a été un entrefilet, parce que là, c'était plus proche. C'était la honte de la famille. Il s'est fait baptiser par immersion, âgé, alors qu'il était paralysé. Ils l'ont sorti de son fauteuil, ils l'ont balancé dans l'eau, ils l'ont ressorti. Il y a eu une démarche là derrière. Mais alors ça se disait, je l'ai appris par hasard. Hé ! Encore un homme ! Je fais partie d'un maillon, tu fais partie d'un maillon, tu fais partie d'une chaîne, tu n'en connaissais peut-être pas le début, mais toi, tu es un maillon et ta responsabilité, eh bien, elle est de prier pour ta descendance, pour ce que tu approches. Et ça, c'est une responsabilité importante. Prier, c'est essentiel. Enseigner, c'est pas simplement parler, c'est vivre. Parce que fais pas ci, fais pas ça, ni na ni na ni na na. C'est bien, mais si tu ne le fais pas toi, ça n'encourage pas trop. Donc c'est important. Et peut-être que là, je vais rejoindre mon frère qui avait dit, en s'appuyant sur une parole de Jacques, vous demandez mal, c'est peut-être aussi parce que nos motivations ne sont pas bonnes. Quelles sont nos requêtes? Comment prions-nous? Nous prions pour nos familles, mais dans quel but? Dans le but qu'ils assoient notre témoignage ou dans le but que leur vie puisse être développée dans leur témoignage. Peut-être que des fois, nous avons des requêtes qui sont un petit peu étriquées. Est-ce que mes requêtes sont source de bénédiction pour l'autre? Par exemple, j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes beaucoup de sous parce que j'ai des factures à payer. C'est les choses qu'elles arrivent. Mais quand Dieu me bénit financièrement, est-ce que je pense à augmenter mon train de vie ou est-ce que je pense plutôt augmenter le niveau de ma générosité? Ne demandons peut-être pas de façon tout à fait juste, c'est exact. Dans les histoires des filles de Tselofkad, le problème s'est renouvelé. On retrouve que dans le livre de Josué, ça y est, on est parti dans la conquête. Je vous donne la référence. Josué 17, versets 3 et 4, elles vont rappeler ce qu'a dit Moïse. Josué 17, versets 3 et 4. Selophkhad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms, et on y remet. Makla, Noa, Ogla, Milka, Tirza. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, on n'a plus de Moïse, hein, d'accord ? Josué, fils de Nun. Et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Elles ont encore osé, hein. Bon, d'accord, Moïse a dit, mais vous vous en rappelez, là nous osons réclamer à l'ennemi. Osons réclamer ce qui nous vient de droit. Osons dire, non, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas au bien. Tu ne toucheras pas à mes chers. Quand l'orage arrive... Moi, j'ose dire, non, 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 tu ne détruiras pas l'église, tu ne détruiras pas mes biens, tu ne détruiras pas les biens de mes frères. Un arbre ne tombera pas sur leur voiture. Ce qui vous passe dans le crâne, hein. Nous avons le droit, nous avons cette autorité. Nous avons à dire, non, tu ne touches pas ce qui est à moi. Tu ne touches pas ce qui nous appartient. Nous sommes fils, filles. Ne regardez pas les tiroirs parce que ça ne correspond pas forcément, hein. Mais nous voilà dans un nouveau rebondissement. Nombre 36, on repart. Quatrième livre de la Bible. Nombre 36. Nous avons un nouveau rebondissement parce que si Dieu a béni les cinq filles, les frères de Tselophkhad qui auraient dû hériter de leurs frères suivant la loi mosaïque, bah, ils ont été lésés. Hein. Ils ont perdu une part de ce qu'ils pensaient de droit leur revenir parce que c'était comme ça que c'était décidé au départ. Et puis, veulent-ils pas que bah, leurs nièces, elles ont récupéré un territoire qui aurait pu être le leur. Un territoire pour faire de la culture, un territoire pour faire paître le troupeau. C'est important. Eh bien, regardons Nombre 36, les versets 1 à 3 pour commencer. Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse, on est revenu dans les livres des nombres, hein, on est revenu avec Moïse, et devant les princes, chefs de la famille des enfants d'Israël, et ils dirent, « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. » Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. Mais le problème, mais si elle se marie avec l'un des fils d'une autre tribu, et nous voilà partis dans le droit, les enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères, et Israël à celui de la tribu à laquelle ils appartiendront. Et ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Ah. Alors, je résume. Bon, elles ont du territoire. Ben, elles vont se marier, ces filles. Et si elles vont se marier avec un gars de chez Dan, elles vont avoir des fils. L'héritage, il va partir dans la tribu de Dan. Et l'autre chez Ruben. Et l'autre chez... Ah ouais, maintenant, là, ça ne va plus, là. L'héritage doit rester dans la tribu. Versets 5 et 6. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel et il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Voilà, ils ont réclamé, ah bah oui, Dieu donne raison, bah oui. Verset 6, voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophkhad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Donc, elles pourront se marier avec tous leurs cousins. D'accord ? Tribu, hein, c'était pas comme nos petites familles, on vit souvent en vase clos. Il y a de la place, hein. Ah, intéressant. Versets 10 à 13. Qu'est-ce qu'elles disent les filles ? Eh bien, les filles de Tselophkhad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Makla, Tirza, Ogla, Milka, Noa, filles de Tselovkad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles vont se marier avec leurs cousins. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Et tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Une loi qui va rester. Ces filles sont osées, elles sont allées. Une chose que je n'ai pas vraiment bien dite, c'est que quand Dieu a dit à Moïse, eh bien elles ont raison, elles ont droit à leur part, c'est une loi perpétuelle. C'est pas comme ça. C'est pour ça que nos prières pour notre descendance ont une importance dans le temps. C'est une loi perpétuelle. Et là, eh bien, on a une loi perpétuelle. Mais en quoi ils nous regardent là? Allez, on vient dans le Nouveau Testament, d'accord? Et nous, et toi, et moi, et vous. Regardez 1 Corinthiens 7. Une question avait été posée donc par les Corinthiens à l'apôtre Paul. Et au verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Nous sommes concernés. Alors on dit, ouais, mais non, attends. Regarde 2 Corinthiens. Allez. Il faut en remettre une couche parce qu'ils n'ont pas bien compris les Corinthiens. 2 Corinthiens 6, ce coup-ci. 2 Corinthiens 6. Parce que là, on parle de qui, là? Ah, d'une veuve. Oui, bon. Je ne parle pas pour moi. Hein. Je me concerne pas, là. Hein. Je ne me sens pas concernée, en tout cas. Non, je parle dans l'universalité. Qu'est-ce que je veux dire? 2 Corinthiens 6. Verset 14 jusqu'au 7, etc. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Ou qu'il y a de commun entre lumière et ténèbres? Quel accord il y a entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi... Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On ne parle plus des veuves, hein, on parle... D'accord? Non, pas d'union mixte. Non. Un chrétien épouse une chrétienne épouse un chrétien, point barre. Parce que, écoutez, on a eu des sœurs. On les a supportées en tant que supporters dans la prière, mais au fond de moi, je disais, mais elles se sont construites de travers dès le départ. Et en plus, elles connaissaient la parole, elles avaient été prévenues. Et il fallait prier tous les mercredis. Merci, parce que l'une d'entre elles, entre autres, est retournée avec Jésus. C'est difficile. Quand tout a été fichu de travers. En ce moment, je cherche une maison. Combien de maisons sont montées à l'envers, je dis? Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui devrait être en bas est en haut. Deux maisons, j'ai dit, il faudrait lancer une grenade et tout. On ne peut pas faire ça avec les vies. Hein. C'est pas possible. Quand c'est construit de travers, les jeunes gens, les enfants, les jeunes filles. Non, 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 ne t'unis pas avec quelqu'un, toi qui es chrétien, qui est chrétienne, ne t'unis pas avec un non-chrétien. Des fois, on a eu des sueurs froides avec certains, et mon mari est allé le dire. Après, bon, bah, lui, il a prévenu parce qu'il était un petit peu soucieux. C'est grave, hein? Et puis, c'est long, une vie, quand ça va pas, c'est long. Et quand ça va bien, ça passe si bien. Avec des fichus quart d'heure, on est d'accord. Mais regardons. Oui, mais attends, on dit, alors c'est pour les filles, c'est pour les veuves. Non, 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 si tu regardes Galates 3, 28, j'ai écrit 20 ou 28, enfin peu importe. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. C'est universel. Non, 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 non. Ta vie, tu dois la construire en accord avec la parole de Dieu qui dit, eh bien, on ne mélange pas les lumières et les ténèbres. Alors, qu'est-ce que j'en tire? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, sachant combien Dieu est précis dans ses plans. Est-ce que Dieu ne voulait pas que ces filles aillent présenter leurs requêtes? Tout comme il nous appartient d'ouvrir notre bouche pour faire monter nos requêtes. Ose parler à ton Dieu, ose lui parler. Oh, tu sais peut-être pas grand-chose de lui, ose quand même. Et en continuant de le fréquenter, dans sa parole et dans l'Église, bah, peu à peu, tu vas le connaître. Et tu seras de façon plus précise, en s'appuyant sur ses promesses, comment lui parler. Parce que prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi, nous l'avons appris, écouter Dieu. Nous l'écoutons dans sa parole. Et tu découvriras peu à peu aussi ton identité, avec tes droits, mais aussi tes devoirs. Nous sommes citoyens français, nous avons des droits, ça le social, ça se développe. Mais est-ce qu'on développe assez nos devoirs envers la France? Nous avons des devoirs. Nous avons des devoirs envers les autres. Nous avons des devoirs envers notre vis-à-vis, que ce soit notre pays d'accueil ou de résident. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous avons des devoirs dans mon comportement au travail, dans mes relations, dans ma famille. Nous avons des devoirs. Il y a des choses, non, c'est pas... Une fois, mon père, il avait une phrase, c'est pas digne de toi, ma fille. Dans notre famille, nous sommes une famille d'ascendance espagnole, on est fiers. On n'est pas orgueilleux, hein, mais on a notre fierté. Et quand mon père me disait, ma fille, c'est pas digne de toi, ben, je savais que là, j'avais sauté une ligne, hein. Ça me faisait baisser la tête et rentrer en moi-même. Non, 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 non. Notre comportement est essentiel. Notre comportement dans la société. Notre comportement dans nos engagements. Notre comportement dans nos choix. Je l'ai dit avec le choix du mari, mais ça peut être le choix d'une maison, là où est-ce que je vais vivre, le choix d'un travail, le choix d'une nouvelle voiture. Bon, ça peut s'arranger en la revendant, mais il y a des choses qui s'arrangent mal. Hein. Pas du tout même. Dans notre comportement aussi, dans les choix que nous devons faire de suivre Dieu qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Même nos ennemis. Mais quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement vers lui même ses ennemis. Donc, que je cherche à être approuvé de Dieu dans mon obéissance, dans mon comportement, dans mes pensées, dans mes désirs, il me donnera la tout, même si c'est en opposition dans le monde, je suis une femme gagnante dans la joie du Seigneur. Amen. Peut-être que notre pasteur veut reprendre et développer. Je lui laisse la place pour terminer. Je n'avais pas prévu ça. Je peux prier si tu veux.
Amen, amen. Oui, c'est vrai que je n'avais pas prévu de reprendre la main. Mais non, c'est bon. Effectivement, il est intéressant de connaître les promesses de Dieu. De connaître les promesses de Dieu est une chose essentielle. Donc ça veut dire que pour connaître les promesses de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Mais comme nous l'avons dit je ne sais combien de fois, si nous ne la lisons pas, la lumière de l'éclairage du Saint-Esprit, ça peut devenir une parole stérile. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous révéler la parole et pour nous dire que cette parole, tu peux te l'approprier et t'y appuyer dessus. Pour pouvoir dire, il est écrit, comme Jésus-Christ lui-même le fera là, quand il va être tenté par l'ennemi. Ben c'est marrant parce que moi j'aurais fait le principe inverse, j'aurais fermé les tiroirs au fur et à mesure, dire tiens, hop, je ne mélange pas. Mais comme quoi, c'est ça la différence que nous avons tous et cette richesse. Nous sommes tous différents avec des points de vue différents, mais cette parole est une parole certaine et je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je vais te louer, te remercier pour ce temps, merci pour cette parole. Oui, effectivement, on peut croire que nous n'avons pas de droit et ça a même été dit par prophétie, tu es là et tu veux nous aider. De prendre possession de ce qui nous appartient. Mais pour cela, ça signifie qu'il faut connaître ce qui nous appartient, de pouvoir le demander avec sagesse, de pouvoir comprendre. Il y a aussi une chose, souvent, c'est que certains demandent, mais ils ont déjà pris la décision. Et quels dégâts ça peut faire ? Dans une église, il y avait une sœur qui priait pour que le mari qui était marié, la sœur disparaisse pour qu'elle puisse récupérer le mari. Vous croyez que c'était dans la volonté de Dieu, ça ? Je prends quelque chose de gros, hein. Mais je pense qu'il faut comprendre la volonté de Dieu. Et j'ai donné cette image hier que ma femme m'a donnée aussi. En Jésus-Christ, nous avons, on va prendre une image très schématique, vous avez été branché par EDF. Vous avez l'électricité. Mais si vous avez l'électricité, mais vous appelez le technicien pour dire « j'ai l'électricité, mais ça ne marche pas ». Et le technicien va venir, il va rigoler, il va dire « est-ce que tu appuies sur l'interrupteur ?» Tu l'as, mais tu ne l'utilises pas. Tu as des promesses, mais tu ne les utilises pas. Il y a des promesses qui ne te plaisent pas, et cela tu les mets dans le placard. Ça ne marche pas comme ça. Nous l'avons chanté, c'est tout. Ou tu prends, ou tu prends rien. Et il n'y a pas de juste milieu. C'est comme ça que les sectes naissent, où on commence à prendre ce qui nous intéresse. C'est comme ça que les églises dérivent, où on prend des versets ou des choses qui nous plaisent et les autres on les met de côté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes tous en marche. Nous sommes tous serviteurs devant l'Éternel. Et moi, je rends gloire à Dieu de sa douceur et de sa fidélité qu'il œuvre en chacun dans le domaine particulier où ça coince. Et si nous sommes doux et humbles de cœur, il va nous aider à avancer et à pouvoir prendre possession de ces versets, de cette parole puissante. Mais moi, je vais donner un témoignage, c'était compliqué parce que cette parole, je la connaissais et j'aimais une femme merveilleuse qui n'était pas en Christ. Alors, qu'est-ce qu'elle fait que je fasse ? Je me sépare d'elle ? Qu'est-ce qu'il fait que je fasse ? On a pris le temps. Ça a été des moments terriblement, des fois, durs. Mais je peux le dire, et puis mes enfants pourront en témoigner si. Quel bonheur de pouvoir passer des temps de prière et d'adoration, même à la maison. Il y a suffisamment de difficultés sans rajouter cela. Oui, ne pas mélanger la lumière et les ténèbres, c'est une réalité et je ne pourrai jamais être en opposition à ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est aussi au rôle des parents de protéger leurs enfants, de les enseigner du mieux que l'on peut avec tous nos défauts. Hein. C'est important. Mais combien d'erreurs ont été faites? On parlait de l'éducation des enfants, elle commence d'abord à la maison. Hein. Certains ils pensent que c'est l'Église qui va les enseigner. Et tout le reste de la semaine, ils voyaient autre chose. Ça ne sert à rien. C'est nous, tous les jours, que nous devons être cette lumière, qui devons être cette parole vivante. Amen. Père, je veux te louer et te remercier pour ce message. Je veux te rendre toute la gloire. Parce que oui, tu connais chacun de nous, les plans et toutes les actions que tu peux faire, Seigneur. Moi, je veux te rendre la gloire parce que je n'ai jamais rien compris à tes plans. Mais à chaque fois, j'étais émerveillé de comment ils se sont accomplis. Père, je veux te louer, te remercier. Merci pour ce temps. Merci pour cette parole. Vraiment, Seigneur, c'est vrai que moi, j'écris les versets. J'écris des petites phrases clés, comme ça, je peux y revenir quand il y a des choses que je n'ai pas trop bien compris. De ne pas laisser tomber à terre, de prendre le temps de te chercher, Seigneur. Et je vais te louer et te remercier. Merci pour ces temps de vacances. Et je veux bénir, Seigneur, de cette famille qui nous a visités. Oh, donne-leur du soleil et un temps agréable là où ils sont, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen.